Afrique, les infos à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Dakar, 13h à Bangui. Bienvenue à notre journal. On commence par la crise migratoire. Le navire humanitaire Mare Jonio, affrété par un collectif italien de gauche, l'ONG Méditerranée, a été saisi par les autorités italiennes en Méditerranée centrale. C'est ce qu'ont indiqué ce mardi des sources proches du ministère italien de l'Intérieur. Le bateau à l'ancre, près de l'île de Lampedusa, au sud de la Sicile, avait secouru 98 personnes au large de la Libye, dont 67, essentiellement des femmes, enfants et personnes malades, ont été débarquées en Italie. L'ONG Méditerranée a affirmé sur les réseaux sociaux que son bateau était entré dans les eaux territoriales italiennes avec l'autorisation formelle des gardes-côtes, en ajoutant que la saisie était l'ultime vendetta de ceux qui sont contre le sauvetage humanitaire. Avant le Mare Jonio, un autre navire humanitaire, l'Eleonore, affrété par l'ONG allemande Lifeline, avait été saisi lundi par les autorités italiennes avec une centaine de migrants à bord, après avoir violé l'interdiction d'entrer dans les eaux territoriales de l'Italie en accostant au sud de la Sicile à Pozzallo. Violence en République centrafricaine maintenant, l'Union africaine, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale et la MINUSCA, la Mission des Nations Unies en RCA, ont condamné ce qu'elles qualifient d'affrontement d'une rare violence entre groupes armés dans l'extrême nord-est du pays. Le point avec Eddy Issango.
Les trois organisations internationales qualifient d'incidents inacceptables les affrontements qui ont eu lieu dimanche et lundi à Birao entre les mouvements des libérateurs centrafricains pour la justice, MLCJ, et les Fonds populaires pour la renaissance de la Centrafrique, FPRC. C'est une violation flagrante de l'accord de paix de Khartoum, indiquent les trois organisations dans leur communiqué d'hier. Des milliers de civils ont fui les affrontements entre les deux groupes armés. Au moins trois personnes ont été tuées, selon l'ONU. Parmi elles, le général Adam Coton du FPRC. Les deux groupes armés s'étaient également affrontés le 14 juillet dans les villages d'Amdafok à la frontière du Soudan, brisant la calme installée dans le pays depuis l'accord du 6 février. La Centrafrique est dans une situation trouble depuis les renversements du président François Bozizé en 2013.
République démocratique du Congo, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, estime que ce serait suicidaire que les casques bleus se retirent de la RDC. La RDC est un facteur de trouble ou de stabilité pour toute une région, a souligné le patron de l'ONU ce mardi. Concernant l'avenir de la MONUSCO, la mission onusienne en RDC, Antonio Guterres a précisé qu'abandonner la RDC serait suicidaire du point de vue non seulement des Congolais, mais surtout des intérêts de la communauté internationale. Le secrétaire général de l'ONU vient d'effectuer une visite de 3 jours en RDC qui a pris fin hier. Il a aussi déclaré souhaiter un financement par les Nations Unies de la force africaine antiterroriste du G5 Sahel. Concernant la lutte contre l'épidémie d'Ebola dans l'est de la RDC, l'ex-ministre congolais de la Santé, le docteur Oli Ilunga, a été entendu par la justice congolaise, entre autres sur le versement de fonds à des chefs coutumiers. C'est ce qu'a annoncé son avocat lundi à l'AFP. Les détails avec Jean-Roger Bion.
Le docteur Oli Ilunga, qui a démissionné le 22 juillet, est visé par une plainte pour abus de pouvoir, détournement de fonds et menaces, a indiqué son avocat Guy Kabeya dans un document transmis à l'AFP. La plainte a été déposée par un agent du ministère de la Santé qui conteste une nouvelle affectation lors de son audition le 27 août par le parquet général près la Cour de cassation. Des questions ont porté sur les fonds payés à certains chefs coutumiers pour sensibiliser leur communauté à la lutte anti-Ebola. Après l'assassinat en avril d'un médecin camerounais de l'Organisation mondiale de la santé, le ministère avait alors insisté sur l'engagement des communautés pour surmonter leur résistance et les violences contre les médecins et les bénévoles. Les fonds correspondent à des prestations de sensibilisation réellement effectuées par eux. Les chefs coutumiers efficaces, a affirmé l'avocat, en niant tout détournement.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Afrique de l'Ouest maintenant, au Bénin, les Béninois ont célébré le mois dernier le 25e anniversaire de la route de l'esclave. Il s'agit d'un projet élaboré par le gouvernement béninois en partenariat avec l'UNESCO. Lancée en 1994, l'initiative a pour objectif de briser le silence sur la tragédie de la traite négrière, mettre en lumière ses conséquences sur les sociétés modernes et contribuer à la culture de la paix. De Cotonou, le reportage de Ginette Fleur à Dandé.
Un quart de siècle d'existence pour le projet La Route de l'Esclave, un projet voulu par Haïti et plusieurs pays africains et qui a reçu le soutien de l'UNESCO. Lancé au Bénin en 1994, La Route de l'Esclave a pour objectif de briser le silence sur la tragédie de la traite négrière, mettre en lumière ses conséquences sur les sociétés modernes et contribuer à la culture de la paix. Mais y a-t-il nécessité à encore se concentrer sur l'esclavage? Oui, répond Ali Moussaïe, expert de l'UNESCO et président du comité d'organisation.
On ne peut pas faire n'importe quoi avec la question de l'esclavage. C'est en tout cas ce qu'à à travers la route de l'esclave, on essaye de conseiller le pays. Ouais. On ne peut pas, sur le lieu de mémoire, faire n'importe quoi sur le lieu de mémoire. Il y a du recueillement, il y a du respect de la dignité des victimes. Et ça, c'est tout le travail qu'on essaie de voir pour aider le pays à trouver les moyens les plus appropriés. Et c'est très important que ceux qui viennent des Amériques, des Caraïbes, qui viennent sur le lieu de pèlerinage de l'Afrique, il faut aussi que eux, ils sentent que la douleur que leurs ancêtres ont senti, ont vécu et respecté aussi en Afrique.
Résistance, liberté et héritage est le thème de cette édition. Lancé en 1994 à Ouida, le projet La Route de l'Esclave est un des programmes phares de l'UNESCO qui a œuvré de façon déterminante à une meilleure connaissance de la traite négrière, de l'esclavage et de leurs conséquences. Pour Vijaya Tilok, la présidente du comité scientifique de l'UNESCO pour ce projet, le défi est de taille.
On pense que l'Afrique doit vraiment faire face à sa diaspora et de vraiment, comme Ali a dit, de rester très sensible. Quand les gens viennent du diaspora et viennent ici, ils ont toutes sortes d'émotions mixtes. Bien sûr, c'est la joie d'être en Afrique, la terre des ancêtres, mais il y a aussi une grande tristesse. Et il faut vraiment prendre en compte les émotions, les points de vue de la diaspora et de vraiment prendre ça en compte quand vous allez créer un tourisme culturel. Mais il faut vraiment être à l'écoute des gens, que ça ne devienne pas un genre de commercialisation de l'esclavage.
Pour Charles Akibode, expert de l'UNESCO pour la classification des sites historiques, membre du comité scientifique de la route de l'esclave, briser le silence reste une nécessité pour panser les plaies et aller de l'avant.
Je crois qu'il faudrait surtout qu'on montre que très souvent, de plus en plus, il y a une demande. Et ces lieux de mémoire, ces espaces de mémoire sont des compléments à l'éducation dans nos écoles. Et très souvent, on pense que ces lieux de mémoire, c'est pour les Européens, les gens qui ont des dollars ou des euros qui arrivent, alors que nos enfants eux-mêmes fréquentent ces lieux. Mais je pense que aussi nos États ont un devoir, nos responsables ont un devoir. On ne doit pas folkloriser la mémoire africaine.
Selon les autorités, le Bénin rêve d'être une véritable terre d'accueil et d'inspiration pour tous les descendants d'esclaves en quête de réponse et de ressourcement. De Cotonou, Ginette Fleur, Dandé pour VOA Afrique.
Afrique du Nord, en Tunisie, la campagne présidentielle est maintenant en cours depuis hier, plus d'un mois après le décès du chef de l'État Béji-Caïdé Tsepsi. Un scrutin aussi indécis que vital pour l'unique pays rescapé des printemps arabes de 2011 qui doit encore consolider les acquis démocratiques. Prévu en novembre, cette élection a été anticipée du fait de la mort de le 25 juillet de Caïdé Tsepsi à l'âge de 92 ans. Le premier président tunisien élu au suffrage universel direct et elle aura finalement lieu le 15 septembre. Actualité américaine maintenant, conflit en Afghanistan, on en sait plus sur l'accord cadre auquel sont parvenus les États-Unis et les insurgés talibans afghans en vue de ramener la paix en Afghanistan. Les précisions de Lionel Gaïma.
Le document prévoit le retrait des troupes américaines de 5 bases militaires dans un délai de 135 jours à compter de sa signature. 5 000 de 14 000 soldats américains déployés en Afghanistan seront concernés par ce retrait, a expliqué le principal négociateur américain Zalmay Khalilzad lundi sur une chaîne de télévision privée afghane. Dans un premier temps, Kaboul, la province voisine de Parwan, qui abrite la base aérienne américaine de Bagram, verront une nette réduction de la violence, a assuré Khalilzad en précisant que le texte final de l'accord ne sera publié qu'après le feu vert du président Donald Trump. En attendant, les discussions se poursuivent avec les talibans pour déterminer où et quand l'accord de paix sera signé, a-t-il indiqué. Toute tentative des talibans de reprendre le pouvoir par la force sera inacceptable et constituera une ligne rouge pour les États-Unis, a prévenu Khalilzad, qui a briefé le président afghan Ashraf Ghani sur l'accord cadre.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.